Bonsoir, bienvenue, merci de votre présence. C'est ce soir la troisième conférence publique du groupe de recherche théorique qui a été créé cette année et dont pour l'instant les manifestations principales, mais qui commencent à ne plus être tout à fait les seules, sont justement ce programme de conférence et des réunions de travail. Alors si je sais que beaucoup de ceux qui sont dans la salle connaissent le groupe et sont là pour ça, mais si il y a parmi vous des gens qui sont là pour la première fois parmi nous ce soir, d'abord je leur souhaite particulièrement la bienvenue, et d'autre part je leur dis que le groupe est coordonné par Johan Hollande qui est ici, tout à fait, et puisque je ne crois pas qu'on ait ce soir pensé à amener des programmes, je ne sais pas si je me trompe, donc Johan qui a la gentillesse de coordonner amicalement ce travail avec beaucoup d'efficacité prendra si vous le voulez vos adresses mail si vous souhaitez être tenu informé de notre programme, de notre travail. Il y a beaucoup de raisons de se réjouir beaucoup de la présence de Bernard Stiegler ici ce soir. Je ne vais pas les énumérer toutes, ce serait fastidieux, mais j'en prélève au moins, je ne sais pas, trois. La première, c'est qu'il s'est noué ces derniers mois en particulier, mais depuis déjà quelques temps, depuis déjà deux ou trois ans, une sorte d'espace de réflexion, de croisement, de travail commun entre lui et nous, disons, et que ce croisement est extrêmement productif, prometteur, très tonique. Donc il ne s'agit pas, notre collaboration n'est pas du tout seulement une collaboration institutionnelle, si même si les uns et les autres nous avons parfois recours aux institutions pour pouvoir lui donner forme, mais c'est d'abord et avant tout une rencontre de pensée très forte dont je crois que nous pouvons attendre ou espérer beaucoup. La deuxième raison, c'est que Bernard a choisi d'associer l'Institut de recherche et d'innovation qu'il vient de créer dans le cadre du Centre Georges Pompidou, dont il est le directeur du département culturel, du département du développement culturel. Bernard a choisi d'associer l'IRI, c'est-à-dire cet institut de recherche et d'innovation, tout juste né, à notre groupe de recherche théorique, dont il est un partenaire à ce titre. L'IRI est un partenaire. Et c'est pour nous une collaboration très précieuse, au même titre que celle de l'école doctorale, de l'école doctorale 3, de l'école doctorale littéraire de Paris 4, et du groupe Fabula. C'est grâce à de telles collaborations que notre groupe peut commencer d'avancer. Puis la troisième raison principale, évidemment, c'est que, si j'en juge par mon sentiment personnel, le travail que fait Bernard Stiegler en ce moment est extrêmement important, en général. Je le dis en toute sincérité, je ne suis pas en général porté sur la flagornerie, mais je crois que ce travail est très important. Voilà. Et donc Bernard a beaucoup publié ces dernières années, il est en une œuvre en cours engagée qui est énorme. Je prélève certains titres. Tout récent, mais peut-être les trois derniers. Alors un, évidemment, cher à mon cœur, parce qu'il atteste l'échange et le croisement que je disais, c'est un ouvrage que nous venons de co-signer avec Jean-Christophe Bailly, donc Bernard et moi, qui s'appelle Le théâtre, le peuple, la passion, qui vient tout juste de paraître aux Solitaires Intempestifs. Un ouvrage que Bernard Stiegler co-signe avec le groupe Ars Industrialis, dont il est évidemment un des animateurs, et qui s'appelle Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel, et un livre dans la lecture duquel je suis engagé à tous les sens du mot, et qui est un livre de politique au sens à la fois strict et large du terme, qui s'appelle « La télécratie contre la démocratie, lettre ouverte aux représentants politiques ». À mes yeux, je dis entre nous, c'est un des textes qui propose, qui avance les propositions, les énoncés politiques les plus inattendus, les plus novateurs, et j'ajouterai les plus positifs, qu'en tout cas pour ma part j'ai pu lire ces dernières années. C'est un ouvrage extrêmement stimulant et, à mon avis, qui ouvre un champ porteur de beaucoup d'avenir. Donc, merci beaucoup, Bernard, d'être là et d'avoir choisi de t'inscrire dans ce programme sous le titre que tu nous as annoncé, Critique et théorie.
Merci à toi, Denis. Merci de ces mots qui m'impressionnent un peu. Alors, je vais prendre la parole. Je vais dire des bêtises, mais merci beaucoup, je suis très très touché de ce que tu as dit, et je suis effectivement, les gens avec qui je travaille régulièrement savent que depuis quelques... grâce à Georges Collins qui se présente d'ailleurs, parce que c'est lui, Georges, qui m'a fait lire tes textes, les textes sur l'Europe, et aussi ce livre qui m'a beaucoup frappé, excité, qui s'appelle « Le théâtre est-il nécessaire ?» et qui fait que nous avons ensuite eu l'occasion de collaborer ensemble, notamment avec le théâtre de Bretagne, à Rennes. Et finalement, ça s'est très très bien passé, avec la grande chaleur qui émane de Denis Guénoun, que vous connaissez tous ici, je pense. Et voilà, et nous avons trouvé les moyens de développer ce travail et d'essayer d'agencer, on croit au collectif, quoi, hein. Nous faisons partie des gens qui croyons au collectif, malgré tout ceux qui n'y croient pas. Et donc, moi, pour moi, c'est la chose fondamentale de la pensée. Et je me régale à travailler avec Denis, qui fait par ailleurs un séminaire en ce moment. Alors, je sais qu'il se passe très très bien à l'IRI, sur le jugement. Et quand il m'a proposé d'intervenir ici, bon, moi j'ai dit effectivement que je souhaitais que l'Institut en tant que tel devienne effectivement associé à ce groupe de recherche théorique. D'abord parce que l'IRI, c'est un lieu où on veut travailler sur la théorie. Même si on ne sait pas très bien ce que c'est. Et voilà. Donc j'ai proposé pour cette intervention ce titre Critique et théorie, qui est assez vertigineux quand on y réfléchit 5 minutes. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait après, quand j'ai commencé à y réfléchir. Bon, mais voilà, en même temps, je me suis dit, on va commencer, on verra bien. On va lancer quelques pistes pour revenir à cette question de la critique et de la théorie et de leur relation, qui était auparavant, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, des questions absolument permanentes, quotidiennes, qui faisaient la vie la plus banale qui soit du monde intellectuel, artistique, politique, etc., et qui ont été quand même en grande partie expulsées, d'une manière ou d'une autre, même si elles sont maintenues sous des faux noms ou avec des faux nés, de la réalité de notre époque. Et je pense que c'est l'objet d'un combat de réactiver cette question de la critique et de la théorie. Alors, j'essaye toujours de factoriser mes différentes activités, donc ce que je vais faire ce soir, ça participe de ma réflexion théorique à l'IRI et à la manière même de concevoir comment fonctionne cet institut de recherche et d'innovation. Je suis très heureux que Jean-Louis Comelli soit dans la salle, je ne sais pas où d'ailleurs, je l'ai vu rentrer tout à l'heure. Je sais pas où il est. Bon. Mais Jean-Louis, ah voilà, il est là-bas. Et Jean-Louis est un des contributeurs de cet institut vraiment très très important, avec lequel, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, avec Xavier Servin ici présent, avec lequel nous nous régalons aussi. Nous avons la chance de cet institut de nous régaler, pourvu que ça dure. Et nous nous régalons à explorer des choses avec des personnes qui ont des savoirs, des pratiques, des pratiques aussi bien de cinéaste, de critique de cinéma, d'ingénieur, etc., mais aussi qui ont des points de vue, qui occupent des positions, et qui aussi essaye d'exercer une fonction critique. Alors, dans cet institut, je suis venu, à la demande de Racine, le président du Centre Pompidou, Bruno Racine, pour porter une question politique de l'amateur. Et la question, grosso modo, si on la prend de manière extrêmement plate, comme ça, pas plate mais en même temps claire, elle est comment reconstituer un amateurat autour des œuvres, je parle en l'occurrence particulièrement des œuvres qui sont présentées au Centre Pompidou, les œuvres d'art, les œuvres de l'art moderne et de l'art contemporain, mais aussi les œuvres de ce qu'on appelle les arts vivants, de la littérature, les œuvres de l'esprit. Comment reconstituer un amateurat autour des œuvres où le tourisme, là où au centre Pompidou notamment, mais pas seulement. Le tourisme et le consumérisme culturel ont tué la Torah. Et cette question, je la pose en supposant que le rapport aux œuvres n'est concevable que comme une économie libidinale. Que le rapport aux œuvres, c'est une modalité, et je dirais la modalité la plus insigne d'une économie libidinale. Que l'amateur, c'est un amateur, l'amateur vient de Amor, et c'est une forme exquise de la sublimation. L'amatora est une forme, voire la forme la plus exquise que l'on puisse imaginer, de la sublimation. Je vais essayer de développer cette idée qui me conduit inévitablement à la question de la critique et de la théorie. Je vais la développer en pensant à quelqu'un qui est un de mes collaborateurs, qui est maintenant directeur adjoint avec Vincent Puig de l'Institut de Recherche et d'Innovation. Il s'agit de Roger Rotman. En pensant à une discussion que j'ai eue avec Roger Rotman il y a à peu près un an. Roger Rotman, c'est la personne qui, au Centre Pompidou, s'occupe des forums de société et qui maintenant s'occupe de toute la coordination de la programmation du département du développement culturel. Roger Rotman, comme un certain nombre d'autres responsables de la programmation du département, je les ai rencontrés chez moi il y a un peu plus d'un an, je n'avais pas encore pris mes fonctions au Centre Pompidou, je voulais que nous ayons des discussions un peu préalables et théoriques sur les questions, qu'est-ce que programmer aujourd'hui, la responsabilité de la programmation, qu'est-ce que c'est que le rapport aux œuvres d'art, etc. Bon. Et j'ai avancé cette problématique de l'amatora, de la mort, de l'amator, de l'économie libidinale. Et Roger il a discuté, il y a eu une grande discussion très intéressante avec toutes ces personnes, qui sont toutes très compétentes, très réellement compétentes. Et à un moment donné, Roger m'a dit « Oui, mais en même temps, moi, il m'arrive souvent de sortir d'une exposition, ou d'une galerie, ou d'un spectacle, et je ne dis pas que j'ai aimé la chose, je dis « Ah ouais, c'est intéressant. » Deleuze disait d'ailleurs très souvent ça. « Ah oui, c'est intéressant. » »« Ah oui, c'est intéressant. » C'est intéressant, mais c'est comme si l'intérêt était une butée qui empêche qu'on aille plus loin. Voilà. C'est intéressant, mais c'est intéressant, trois points de suspension. Que se passe-t-il lorsqu'au lieu de me sentir aimé une œuvre ou aimé par une œuvre, parce que moi je crois qu'on aime une œuvre que si on se sent aimé par l'œuvre, au lieu de me sentir ouvert par elle en tant que je l'aime, qu'elle m'aime, qu'il y a quelque chose de cet ordre, en tout cas, de ce type d'affect. Je me dis non pas qu'elle me laisse indifférent, mais qu'elle m'intéresse sans que je puisse dire que c'est une relation d'aimer. Je n'aime pas. Je suis affecté, je ne suis pas indifférent, donc il y a une affection, il y a un affect qui fonctionne. Il y a quelque chose de l'ordre de l'affect qui fonctionne, mais ça n'est pas aimer cette œuvre. Ça n'est pas le type d'émoi, et ça n'est peut-être même pas un émoi, à proprement parler. C'est peut-être un affect qui n'est pas, à proprement parler, un émoi. Est-ce possible? Est-ce qu'un affect est possible qui ne soit pas un émoi, d'abord? Ça, c'est une question très compliquée. Et dans ce cas-là, en quoi est-ce qu'un rapport de ce type-là m'ouvre-t-il encore à quelque chose, s'il est vrai qu'une œuvre ouvre, parce que pour moi c'est ça une œuvre. En anglais on dirait fonctionne. A work works. Ça fonctionne, mais ce fonctionnement est de l'ordre d'une ouverture, je dirais tout à l'heure une individuation. Alors, j'ai pris très très au sérieux cette question de Roger Rotman. Elle me hante depuis. Et elle va nous conduire, si j'en ai le temps, à la question de ce que j'appellerais une mystagogie. Une mystagogie de l'art contemporain, mais qui suppose, pour la poser correctement, que l'on passe par la question de la critique, de la théorie, des appareils critiques et de beaucoup d'autres choses, et de ce qu'il en est de l'affect dans tout cela, en passant par Emmanuel Kant. Et un petit débat avec Jacqueline Lichtenstein, d'ailleurs. Alors, avant d'entrer dans mes propos, Je vais faire deux ou trois références supplémentaires. Je viens de parler de Roger Rotman, maintenant je vais parler d'André Rouillet. André Rouillet, c'est un excellent critique qui tient un blog, ou je ne sais pas comment appeler ça, un site internet, ça s'appelle, je vous recommande vraiment d'aller le voir et de vous y abonner si ce n'est pas le cas. C'est un des rares trucs intéressants sur l'art contemporain. Ça s'appelle paris-art.com. Et il fait pratiquement toutes les semaines, parfois deux fois par semaine, parfois ça reste sans rien pendant trois semaines, mais il fait des chroniques et qui sont très intéressantes. Parfois je ne suis pas d'accord, mais je suis toujours intéressé. Alors là, on retrouve l'intérêt. Toujours intéressé, c'est toujours stimulant, ça ne me laisse jamais indifférent. Et il en a fait une l'année dernière, il y a un peu plus de six mois, dans laquelle il parlait d'un débat qui avait eu lieu, je crois bien, au Palais de Tokyo, il me semble, et où un critique prétendant incarner le renouveau de la critique, je cite ici André Rouillet, se vit adresser une question par quelqu'un qui était présent dans l'assistance de ce colloque, là où ce monsieur disait « j'incarne un renouveau de la critique », et la personne dans l'assistance lui avait demandé quels étaient les outils et les orientations théoriques, l'appareillage conceptuel qu'il mobilisait dans cette nouvelle incarnation critique. Et ce monsieur a répondu, comment ça, outils, concepts, pas du tout, c'est ma bonne foi qui me guide, je cite littéralement, c'est ma bonne foi, virgule, c'est ce qui me guide, point d'exclamation. Voilà qui est intéressant. En voilà un mystagogue. Rouillet introduit cette question en citant Karl Marx, 1843. Marx dit, ça ne laissera pas indifférent mes amis d'Ars Industrialis, nous animons tous les mercredis soirs, pas tous les mercredis soirs, mais un mercredi sur deux au Collège de Philosophie, un séminaire qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes ». Marx écrit en 1843, « L'arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes ». Ça c'est André Rouillet qui le cite. À la question qui était adressée à ce critique, qui répondit « Ma bonne foi, c'est ça qui me guide ». Évidemment, il eut droit à une volée de bois vert, il se fit un peu contredire, et il fut répondu à ces contradictions que la critique, la théorie, tout ça, c'était des postures hors d'âge. Et que il s'agissait de... qu'on n'en était plus là. Que la bonne foi du critique, l'intime conviction, était le garant du travail aujourd'hui de la critique d'art. Alors, je ne vais pas rentrer dans le texte de André Rouillet, je vous invite à le lire, il est intéressant. Je voudrais maintenant faire état d'une anecdote. Un jour, je me trouvais invité à un événement artistique qui était un vernissage où il y avait pas mal de monde et à l'issue duquel il devait être remis un prix à la personne qui était exposée dans ce vernissage. Et il y avait 300 personnes environ dans ce vernissage. Et en arrivant, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un ton particulier. Les gens ne parlaient pas très fort, ils parlaient entre eux, ils murmuraient plutôt qu'ils ne parlaient, et je me suis aperçu petit à petit qu'un certain nombre exprimaient des doutes sur ce qu'ils voyaient. Et j'ai rencontré aussi quelqu'un qui avait une fonction importante dans cette exposition, et qui lui-même m'a exprimé ses doutes. Et voilà, donc je me suis demandé ce qui allait se passer à la remise du prix, qui s'est faite 20 minutes plus tard, et à ma grande stupeur, au moment de la remise du prix, l'artiste a été chaleureusement félicité de cette œuvre absolument exceptionnelle, dont on était très fier de voir qu'elle était couronnée par ce prix très prestigieux, etc. Et j'ai senti un soulagement de la part de toute l'assistance, disant « Ouf, finalement, ça valait le coup d'être là !» Et que tout l'embarras, l'anxiété qui qui plombait un petit peu le climat, tout à coup s'est détendu, les applaudissements explosés, tout le monde était ravi et soulagé. Et moi, je suis sorti extrêmement mal à l'aise. Et je me suis dit que je venais d'assister à une expérience que l'on appelle mystagogique. Et que toute expérience mystagogique est une expérience risquée. Je me suis dit, dans les 10 minutes ou la demi-heure qui a suivi, et ensuite dans les jours qui ont suivi, parce que ça m'a hanté, que tout art, était de près ou de loin de l'ordre du mystère, et donc de l'ordre d'une pratique mystagogique. Je vais y revenir de manière plus théorisée tout à l'heure, et que cependant, ce que l'on appelle l'art contemporain constituait une sorte très spécifique d'un tel mystère de l'art. Il en va ainsi également de la philosophie, et donc de la science, car la science, c'est de la philosophie. La philosophie hérite des présocratiques. Et qu'hérite la philosophie des présocratiques ? D'un mystère. Les présocratiques sont des mystagogues, littéralement parlant. Au sens où le mystagogue n'enseigne pas, il initie à des mystères. Et évidemment, cette initiation mystérieuse, pour ne pas dire mystique, que pratique la pensée présocratique, est liée au mystère d'Eleusis, à toutes sortes de pratiques rituelles ou cultuelles de cette époque. Le théâtre même, en tant qu'il procède du rituel, fondamentalement le théâtre est une mutation du rituel, procède du mystère, dont je pense qu'il devient, à un moment donné, dans ce devenir profane qu'est le théâtre, devenir profane du mystère, non plus simplement un mystère, mais une énigme. Il y a une origine radicalement et je crois irréductiblement mystagogique de tout savoir. Mais je crois que cette mystagogie, dont l'art donc procède comme toute autre forme de l'esprit, et on pourrait dire d'ailleurs que ce caractère mystérieux ou mystagogique de toute forme de l'esprit vient aussi du fait que l'esprit vient des esprits, c'est-à-dire de la revenance des fantômes de quelque chose, lors d'une hantise ou d'une anthologie, comme disait Derrida, cette mystagogie, je crois qu'elle prend un tour nouveau au XIXe siècle, je dirai pourquoi tout à l'heure, si j'en ai le temps, parce que j'ai 15 pages de notes, je sais que je n'ai pas tout développé, mais surtout au début du XXe siècle, avec un certain Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est l'inventeur d'une nouvelle époque mystagogique. Réfléchissant à toutes ces choses, et c'était il y a donc quelques mois, je me dis que dans l'histoire de cette mystagogie que serait donc l'art de tout temps, l'art contemporain correspondrait ou ouvrirait, très spécifiquement une nouvelle question de la mystification qu'est toujours possiblement toute mystagogie, ou que pose en tout cas toute mystagogie. Un aspect très caractéristique de cette mystagogie tiendrait au fait qu'en plein art moderne, y compris à ce moment où l'art moderne était engendré, où l'art contemporain était engendré par cet art moderne, typiquement Duchamp est un engendrement de l'art contemporain dans l'art moderne, sécrété par ce qu'on appelait les avant-gardes, une cérémonie comme celle à laquelle j'avais assisté, où j'avais senti planer ce malaise et puis finalement ce soulagement, cette catastrophe, on dirait en grec, une telle cérémonie aurait provoqué un scandale. Et que ce scandale, par où la société à l'époque de Dada, de Duchamp et de tant d'autres occurrences de ce qu'on a appelé les avant-gardes, ce scandale par où la société était travaillée, œuvrée et en quelque sorte sculptée par la mystagogie artistique. Parce qu'on a, moi j'ai vraiment le sentiment que Dada, le surréalisme, tout ça, ont sculpté le temps du XXe siècle. Eh bien, un tel scandale, en notre pauvre début du XXIe siècle, semblait devenu absolument impossible. Impossibilité créée par une indifférence qui n'est ni de l'amour, ni même de l'intérêt, mais purement et simplement du mimétisme, de la mystification, murmurante, craintive et moite. Alors, ici, je voudrais lire quelques pages d'un penseur allemand très important qui s'appelle Konrad Fiedler, qui a inspiré beaucoup ses avant-gardes et qui écrit ceci dans des fragments publiés par Klingsic. Le jugement esthétique, la question de savoir si une chose est belle ou laide, si elle plaît ou déplaît, etc., ne peut être, selon Emmanuel Kant, soumise à aucune règle universellement valide. Il est purement subjectif, et pour chaque cas particulier, le goût doit reformuler son jugement. Il en va tout autrement pour ce qui est du jugement artistique. Donc Fiedler s'est fait connaître, à la fin du XIXe siècle, pour dire, oui, certes, il y a du jugement esthétique, tel que Kant l'a défini, etc., de ma troisième critique, mais il y a aussi du jugement artistique, et on ne saurait les confondre. Celui-ci, le jugement artistique, peut et doit être soumis à des règles universellement valides et déterminées. Car le jugement n'est pas rendu par le goût, mais par l'intellect. Si l'on admet pour seul juge des œuvres d'art le goût, c'est parce qu'on ne voit en elles qu'un instrument destiné à flatter la sensibilité esthétique, ce qui ne les distinguerait pas de tout ce qui occasionne également une impression sensible. Le jugement esthétique ne présuppose pas la connaissance des choses, tandis que le jugement artistique ne peut être rendu que grâce à cette connaissance. Je dois vous avouer que je n'avais jamais lu Fiedler jusque récemment, jusqu'à ce que Jacqueline Lichtenstein me m'envoie un texte extrêmement intéressant, qui s'appelle « Règles artistiques et normes esthétiques », qui est un texte assez violent, assez violemment anti-kantien, et dans laquelle Jacqueline Lichtenstein, qui est professeure ici à l'Université Paris 4, pose qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du tout dans la théorie kantienne du jugement réfléchissant. Je ne vais pas développer ce point, j'espère que j'aurai le temps, l'occasion de le faire dans le cadre de l'IRI avec Jacqueline, à qui j'ai proposé de faire un séminaire pour préparer ce colloque sur le jugement, que nous organiserons ensemble, sous l'autorité de Denis d'ailleurs, l'année prochaine au Centre Georges Pompidou, je vous en informe parce que je vous y invite. Et j'espère bien donc que nous inviterons Jacqueline et que nous reviendrons sur cette question. Quoi qu'il en soit, sans développer, je dirais simplement qu'à mon avis, et je vais y revenir, Jacqueline Lichtenstein, qui a tendance à, je crois, à un peu trop rapidement évacuer le jugement esthétique kantien comme étant le problème du jugement réfléchissant. Je rappelle ce que c'est que le jugement réfléchissant, c'est un jugement qui est, on peut dire, subjectif, au sens où il ne peut pas déterminer son objet, et qu'il ne peut être qu'une mise en miroir, en vérité, de la subjectivité de celui qui juge, et que donc c'est un jugement qui postule inévitablement à l'universalité, mais qui en même temps ne peut pas de fait atteindre cette universalité, parce qu'il n'est pas capable de produire les règles analytiques qui permettraient de la développer en tant que telle, c'est-à-dire de la déterminer, cette universalité. Donc c'est une universalité indéterminée, ce qui est très problématique. Je vais y revenir, mais je vous dis tout de suite, par anticipation, que c'est une universalité mystagogique. Le jugement kantien de beau, et pas simplement de beau, mais de sublime, et le jugement esthétique en règle générale, chez Kant, est un jugement mystagogique. C'est un mystère, à proprement parler. Je crois, pour des raisons que je ne développerai pas aujourd'hui, que Jacqueline Lichtenstein a raison d'opposer à Kant qu'il y a un autre jugement, et que ce jugement est un jugement artistique, comme elle dit, en reprenant l'expression à Fiedler, donc, qui permet d'argumenter mon jugement, qui permet de l'argumenter, et qui permet éventuellement, par cette argumentation, de changer mon jugement. Car il y a un très grand problème avec le jugement de Kant. C'est un jugement immuable. C'est un jugement qui ne se transforme pas. Celui qui juge dans la troisième critique de Kant ne peut pas changer d'avis, par exemple. Il ne peut pas être altéré par une argumentation qui... Or, moi, je sais que mon expérience personnelle, moi, j'aime beaucoup juger et discuter, c'est qu'on m'a fait bouger dans mes jugements. Jean-Louis Comolli, par exemple, ici présent, m'a fait bouger dans mes jugements. J'ai lu des choses de lui, ou j'ai vu des choses de lui qui m'ont ébranlé dans mes façons de penser, etc. Et c'est ce que j'attends d'une œuvre, qu'elle m'ouvre, et donc qu'elle me transforme. Le problème du jugement esthétique kantien, c'est qu'il est tellement formel qu'il ne puisse pas transformer quoi que ce soit. Et ici, les questions que pose Jacqueline Lichtenstein sont très importantes. Pour ma part, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Le temps du cinéma », dans lequel j'ai fait un commentaire de la première critique d'Emmanuel Kant, là où il développe la théorie des trois synthèses de l'imagination, et où j'ai essayé de montrer qu'il manque une quatrième synthèse de l'imagination. Cette synthèse, c'est ce que j'appelle la synthèse prothétique a posteriori. Non pas le synthétique a priori, qui sont les trois premières synthèses de Kant, mais la synthèse prothétique a posteriori, c'est une synthèse qui est rendue possible par la technicité qui permet par exemple d'inventer des appareils critiques, comme les lignes de temps qu'on fabrique en ce moment au Centre Georges Pompidou dans le cadre de l'IRI. Ce vers quoi je suis en train de m'acheminer en disant tout cela, c'est la question de l'appareillage critique. Je pense qu'en effet, il peut y avoir du jugement artistique, et qu'il peut y avoir du jugement artistique parce qu'on peut appareiller les amateurs au plan critique, les amateurs étant pour moi d'abord les artistes. Parce que l'amateur, ce n'est pas pour moi celui qui n'est pas producteur d'œuvres. C'est l'artiste en premier lieu. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé dans la pensée de Denis Guénoun sur le théâtre, c'est qu'il pose, enfin moi en tout cas je l'ai entendu comme ça, cette question-là au théâtre. Alors, tous ces attendus que je n'ai pas le temps de développer, pour moi, pose donc la question de la critique, et celle-ci, je constate, ou je crois pouvoir constater, qu'elle est en crise. Ce qui est évidemment intéressant, c'est que critique vient de crisis. La critique est en crise, et je dirais qu'une critique est toujours en crise. Mais toutes les époques ne sont pas aussi critiques les unes que les autres, et pas toujours dans le même sens. Je crois qu'une nouvelle théorisation de cette crise, qu'est toute critique, fait défaut, et que c'est ça notre crise, c'est ce défaut même, mais que c'est un défaut au carré, parce que le jugement réfléchissant de Kant est un jugement par défaut. Je juge, par exemple, qu'une œuvre est belle, et j'universalise mon jugement par défaut. Je ne peux jamais l'actualiser, ce jugement. Je ne peux jamais prouver, autrement dit, que j'ai raison. Autrement dit, la question qui se pose à nous aujourd'hui, critique et théorie, c'est la question d'une théorisation du mystagogique. Et donc, de Dieu. Car en aucun cas, une question mystagogique, pour nous qui sommes les tarvenus d'après Moïse, pouvons nous passer de Dieu. De passer par Dieu, par ce chat d'aiguille qui est Dieu. Moi, ceux qui me connaissent le savent, je suis un mécréant, je suis un athée, comme on dit, même si la théologie est pour moi un problème très compliqué. Je pense que la dénégation de ce chat de l'aiguille, de la mystagogie telle qu'il passe par Dieu, est une grande maladie de l'athéisme et de la critique. Et de la critique qui a dominé les années 50, 60, 70. Il n'y a pas de jugement sans critique, y compris le jugement dernier. Mais toute critique n'est pas théorique. Il n'y a pas de jugement sans critique, mais toute critique n'est pas théorique. La question de savoir si une critique peut ne pas être un jugement se posant par ailleurs. S'il est vrai que critique vient de krinein, qui est un verbe qui veut dire juger, et qui donne une faculté que Aristote appelle tokrinon, la faculté de juger. Enfin, c'est ce que Kant appelle la faculté de juger, mais Aristote lui appelle ça le jugement, doctrinum. Ce qui montre bien que tout jugement est critique. Si le jugement s'appelle tokrinon, krinon venant de krinaïn, et krinaïn étant l'origine de la crisis, de la critique, c'est-à-dire de la décision. Puisque une des premières occurrences fortes du mot crisis, c'est dans Hippocrate, qu'on la trouve. C'est-à-dire, la crisis, ça décrit un état de la maladie au départ. Hein. C'est un moment où va se décider une bifurcation. Soit il passe la nuit et il s'en sort, soit il ne la passe pas. Voilà, en gros, hein, c'est le moment critique, c'est celui où se décide l'issue d'une maladie. C'est intéressant ce mot de maladie. Je vais y revenir. Tout jugement serait donc critique parce qu'il serait toujours un moment de crise. Mallarmé dirait une crise de verre, par exemple. Et cela tendrait à induire que toute critique est un jugement. En tout cas, si on pense avec les Grecs, donc, et avec Aristote en particulier. Il n'en reste pas moins que tout jugement, comme Crinéin, n'est pas nécessairement théorique. Il faut, je le crois, et ça va être mon énoncé principal de ce soir, distinguer des jugements critiques théoriques et des jugements critiques pratiques. Ceux qui jugent et qui s'y connaissent, qui peuvent juger parce qu'ils s'y connaissent, qui jugent depuis la connaissance qu'ils ont, et c'est ça ce dont parle Fiedler au titre du jugement artistique, connaissance qu'ils ont de ce dont ils jugent, n'ont pas nécessairement une connaissance théorique de ce dont ils jugent. Ils s'y connaissent, ils ont des connaissances, ou plutôt, corrigeons ces énoncés, qui sont tous faux. Ils n'ont pas des connaissances. Ils ont, si on parle de manière stricte, des savoirs. Et tous les savoirs ne sont pas des connaissances. Une connaissance, c'est un savoir formalisé, théorisé précisément, autant que possible non contradictoire, tandis qu'un savoir, ça peut être un savoir-faire. Il y a des gens qui jugent pratiquement, fondés sur des savoirs, leurs savoirs sont des savoirs pratiques, mais ils ne formalisent absolument pas leur jugement sur le plan théorique. Et leur jugement est tout à fait valide, très souvent bien plus valide que des jugements théoriquement formalisés. La question est alors de savoir en quoi la théorie est nécessaire au jugement critique, puisqu'il y a des jugements critiques pratiques qui se dispensent totalement de théorie. Pour paraphraser ce livre que j'ai évoqué de Denis, je poserai la question: la théorie est-elle nécessaire? Et évidemment, c'est une fausse question, puisque je crois qu'elle est nécessaire. Donc je dirais, pourquoi la théorie est-elle nécessaire? Voilà la question qui m'occupe ce soir. Je crois que la théorie, c'est ce qui permet de discerner ce que j'appelle des consistances. J'appelle consistance, dans la philosophie, depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis Platon, on appelle des idéalités. C'est-à-dire ce qui n'existe pas, mais qui consiste. Et les choses qui n'existent pas, il y en a plein. Ça prolifère, autant que des dieux chez les Romains. Ce qui n'existe pas, mais qui consiste, et qui, en tant que consistant, comme les points cardinaux qui se projettent à un horizon qui s'éloigne à mesure qu'on s'avance vers lui, permettent de s'orienter. Ce qui consiste, c'est ce qui permet de s'orienter, de faire la différence, de faire fonctionner ce que Heidegger, dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, non pas dans Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, ça c'est Kant, dans un texte qui commente Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée, appelle-le, avec Kant, ça c'est de Kant, le principe subjectif de différenciation. Qu'est-ce qui permet de différencier, c'est-à-dire de faire la différence, de ne pas être indifférent, de décider, de trancher, de donner des critères pour une critique. La théorie, c'est ce qui permet de donner des critères pour une critique. Ah, mais alors, je suis en train de me contredire, puisque je disais tout à l'heure que la pratique est un jugement qui a des critères pour juger. Tout jugement met en œuvre des critères pour juger. Donc, il n'y a pas besoin de la théorie pour avoir des critères pour une critique. La pratique suffit. Je dirais la praxis suffit. Oui, elle suffit, sauf lorsqu'il y a une crise des critères, telle que, eh bien précisément, la pratique ne suffit plus. La question théorique se pose lorsqu'il y a crise des critères. C'est-à-dire lorsque les critères font défaut. Parce que la transformation de ce dont il s'agit de juger, étant entendu que tout ce dont il s'agit de juger n'est jugeable que depuis les transformations, c'est-à-dire les nouveautés, les individuations, qu'engendre précisément un processus d'individuation psychique et collective, mais aussi technique, scientifique, artistique, etc. C'est ça qui fait que les œuvres œuvrent, c'est-à-dire ouvrent. Une œuvre n'œuvre, c'est-à-dire n'ouvre que pour autant qu'elle transforme. Et c'est le processus de la transformation qui doit être pensé dans le jugement et par le jugement. Il se trouve que régulièrement, le jugement rencontre une butée où tout à coup, ces critères sont mis en crise véritablement. Et là, ce sont les cas, je crois, on peut le dire, ça discute peut-être, où on a affaire à ce qu'on appelle parfois un chef-d'œuvre. C'est-à-dire à ce que Simondon appellerait le point d'origine d'une nouvelle série d'individuation. Quelque chose qui vient casser un processus qui se déroulait jusqu'à présent. Il y a de l'individuation artistique, ou spirituelle en général, et celle-ci nécessite des critères. J'ai dit ailleurs, et j'y reviendrai, que cette critériologie nécessite ce que j'appelle moi une organologie générale. Étant donné que l'individuation sous toutes ses formes, l'individuation psychique, l'individuation collective, l'individuation technique, l'individuation scientifique, car la science est une individuation, les œuvres d'art sont des processus d'individuation. Tout cela suppose cette organologie. Cette organologie entend qu'il s'y développe un fond d'organa qui sont à la fois des organes, l'œil, l'ouïe, le cerveau, le foie, des viscères, la main, tout ça sont des organes sensibles, mais d'une sensibilité telle qu'elle est affectable en sorte de se trouver transformée par des crises. Et donc cette sensibilité produit des organes qui ne sont plus simplement les organes dont nous disposons comme les limaces, les pores et les babouins, mais ces organes qu'on appelle les instruments, qui donnent l'organon d'Aristote comme instrument logique, et les œuvres en général qui sont des organes. Et c'est aussi ce qui donne ces organisations que sont la Sorbonne, Paris 4, ce séminaire dans lequel je fonctionne en ce moment même, grâce à ce micro qui est un organon, qui me fait parler d'organa qui sont les œuvres de Fiedler, Kant, Joseph Beuys tout à l'heure peut-être, etc. Et ces organisations, comme le Centre Georges Pompidou, sont là à faire pour organiser de la trans-individuation, pour faire que dans ces différentes couches circulent des processus. S'installe un circuit que j'appelle le circuit de l'exclamation, qui est produite par le désir qui m'affecte sous la forme de l'amour ou de l'intérêt en tant qu'il œuvre. Dans ces processus de transformation, il y a des moments où la transformation est si épocale, suspend tellement, me met tellement en suspens je dirais en lévitation. Je dis en lévitation parce que moi, quand je sors d'un film, d'une exposition, d'une lecture, et que vraiment ça va fonctionner, je suis en lévitation. J'ai vraiment l'impression de me retrouver élevé au-dessus du sol. Et je pense que, enfin pour moi, c'est mon premier critère. S'il n'y a pas un truc comme ça, bon, ça a foiré. Pour moi, je ne dis pas que l'œuvre est mauvaise, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Je n'ai pas été œuvré par cette œuvre. Cette lévitation peut se présenter sous d'autres formes que cette euphorie dont je viens de parler. J'emploie le mot euphorie au sens où Michel Tournier l'a employé à un moment donné dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Le roi des hommes ». Cette lévitation peut être aussi une mise en suspens, comme le scandale, par exemple, de la fontaine de Duchamp. Ça peut être une interruption dans ce sens-là, puisque suspens se dit « époque », qui veut dire « interruption », depuis les stoïciens et même avant. Cette interruption, cette façon de briser un cours et de faire qu'il y ait une bifurcation critique qui se produise d'abord en cassant ce qui existe, par exemple ce qu'on appelle à l'époque de Dada le goût petit bourgeois, qui est très qu'ancien ce goût petit bourgeois, hein. Et d'ailleurs ces dadaïstes et ses successeurs vont lire Fiedler contre Kant. C'est une forme d'interruption qui va nécessiter un temps de digestion. Alors, là, en règle générale, on voit dans cette suspension des critères de jugement en vigueur apparaître un discernement spécifique qu'on va appeler le discernement théorique. Et ce discernement théorique va produire du discours. Intrication entre le discernement théorique et le discernement pratique, d'ailleurs, qui va se nouer au début du XXe siècle comme ce qu'on appelle l'âge des avant-gardes, mais qui date de bien avant. Les Allemands, les romantiques, dès la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, nouent déjà de manière intrinsèque les œuvres à la critique. Et surtout, Stéphane Mallarmé théorise, au titre d'une économie politique, qu'est sa poétique, une question de la crise et de la critique dans un discours qui est extrêmement difficile à caractériser, qui est évidemment poétique, mais une poétique qui est presque inéluctablement une forme de théoria, si on entend par théoria le fait qu'il y a contemplation dans la théoria. Alors, je vois que l'heure tourne et qu'il faut que je me dépêche. Combien de temps est-ce que tu me donnes encore?
Je sais pas, moi, c'est... Je sais pas, écoute, non mais c'est...
On verra, quand on se sentira fatigué, je m'arrêterai, parce que j'en ai un paquet. Alors, je dirais que le jugement critique théorique, c'est ce qui devient indispensable. Et vraiment, j'insiste sur ce mot d'indispensable, c'est mon critère, je dirais, de validité d'un jugement théorique. Pour qu'un jugement continue à être possible, pour qu'on puisse continuer à juger, il y a un moment où il faut produire un jugement théorique pour qu'on puisse continuer à juger. Après, ce jugement théorique va éventuellement disparaître en tant que théorique. Il va être absorbé, naturalisé, il va devenir ce que Hegel appelle du bien connu, il va être absorbé, il va rentrer, moi je dirais plutôt, dans le langage de Simonon, je ne suis pas hegelien, il va rentrer dans le processus de transindividuation, il va devenir du déjà-là. Un truc banal. Il est dans le fond pré-individuel, on l'a intériorisé. On ne se rend pas compte que c'est devenu finalement un truc totalement banal. Comme par exemple le fait qu'on parle de sujet et d'objet, n'importe qui parle de sujet et d'objet, le marketing parle de sujet et d'objet, la publicité, vous parlez de sujet et d'objet. Dans ma fille qui a 8 ans, on commence déjà à lui parler de sujet et d'objet à l'école. Bon. Bah oui, mais ces mots-là, ils ont été théorisés. Et avant cette théorisation, ils n'avaient absolument aucune possibilité de pratique de ce type-là. Bon, ça, c'est le devenir bien connu du déjà-là, qui fait que la théorie redevient pratique. Et à ce moment-là, elle produit ce que j'appellerais un appareil critique. Et c'est vers cette question de l'appareil critique que je veux m'acheminer. Quoi qu'il en soit, il y a une époque du jugement critique, en particulier dans le domaine artistique, qui prévaut par rapport à tout autre et qui s'appelle la modernité. Je ne suis pas sûr que l'on puisse dire, par exemple, que la poétique d'Aristote soit une théorie. au sens où elle permettrait de produire des énoncés théoriques, des jugements critiques théoriques sur les œuvres. Je suis pas sûr que ce soit le but d'Aristote, et je suis pas sûr qu'on puisse le faire fonctionner comme ça. Je suis pas sûr du contraire non plus, je vous avoue. Je sais que Denis a beaucoup réfléchi à ça, c'est d'une certaine façon une question que je lui adresse. Je commence déjà par adresser une question avant qu'il m'en adresse. En revanche, ce dont je suis sûr, peut-être à tort, c'est que la modernité rend cette question du jugement esthétique, théorique, absolument primordiale et irréductible. On ne peut plus juger dans la modernité sans en passer de près ou de loin, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, par la question du théorique. Alors évidemment, vous me direz, mais qu'est-ce que vous appelez la modernité ? Bon, eh bien, j'appellerais la modernité, en art, là, pour le coup, le fait qu'une œuvre ne s'arraisonne plus à rien d'autre qu'elle-même. Voilà. Qu'elle n'est plus là pour concélébrer la Révolution française, la puissance de Jésus-Christ, ou je ne sais quoi, mais qu'elle est, bon, c'est une définition extrêmement basique et pauvre et insuffisante de la modernité, mais je m'en tiendrai à ça pour le moment. Nous sommes en train de préparer, par ailleurs, un colloque sur la modernité avec Pierre Damien Wig, qui se tiendra à peu près un mois ou deux avant le colloque sur le jugement. J'insiste sur le fait qu'à partir des romantiques déjà, est-ce qu'ils rentrent dans la modernité ? Vaste question, si on parle de la poésie, j'aurais tendance à dire que oui. Ils conçoivent déjà eux-mêmes les œuvres comme des appareils critiques, bien avant Mallarmé. Et j'ajoute enfin, point d'histoire que d'ailleurs Jacqueline Eschenstein explore de très près, j'ai pas le temps de le développer, moi-même j'ai écrit un texte là-dessus, mais j'ai pas le temps d'en parler. Il paraîtra dans une revue qui paraîtra au mois d'octobre prochain, qui s'appelle L'Amateur. Avec le texte, j'espère, de Jacqueline Eschenstein. Je voudrais insister sur le fait qu'au XVIIe siècle, l'Académie royale de peinture, créée par le roi, qualifie des amateurs. Des amateurs qui sont des nobles et qui ne sont pas des peintres parce qu'ils ne peuvent pas être peintres. Ce ne sont pas des roturiers. Seuls les roturiers peuvent être des peintres, ce qu'on appelle des gens de métier. Donc à l'Académie royale de peinture, il y a le roi ou son représentant, et à sa droite, il y a les gens de métier, les artistes, et à sa gauche, il y a les amateurs, c'est-à-dire ceux qui jugent. Ceux qui ont le droit de juger, parce qu'ils ont le sang bleu, enfin, pas forcément bleu, mais en tout cas noble, et donc bleu de près ou de loin. Et au XVIIIe siècle, débarque un roturier fort connu dans la critique d'art, qui s'appelle Denis, comme toi, Diderot, et qui vient exploser ces gens-là, en disant, mais enfin, de quel droit jugez-vous ? Et il dit, moi, qui ne suis pas noble, mais je suis écrivain, et je travaille dans le logique, dans la langue, je suis capable d'argumenter des jugements, je suis capable de produire des jugements théoriques, et c'est moi qui vous dire les choses. Il entre en conflit avec le baron de Caylus, qui est le représentant, après Roger de Pile, le plus prestigieux des amateurs royaux, désignés par le roi, des amateurs avec un grand A, qui sont créés en même temps qu'est créée l'Académie française, et toutes ces... tous ces appareillages qui créent des armes dans la guerre des esprits. Ce sont des outils dans la guerre des esprits que se donne la royauté, hein, pour contrôler les esprits. Diderot entre en conflit frontal avec Caylus, et finalement il remporte ce conflit, bien sûr, parce qu'il est indubitablement beaucoup plus brillant que Caylus. Et il fait disparaître pendant un bon moment la question de l'amateur, je dirais jusqu'à nos jours, pratiquement. Moi, j'ai eu des conflits avec Pierre Boulez sur cette question de l'amateur. Donc, je crois qu'ils sont inscrits dans cette vieille histoire. Je ne suis pas royaliste, je ne suis pas pour le rétablissement de la noblesse, loin de là. Mais je crois, en revanche, qu'il faut revisiter cette question de l'amatorat. Qu'il faut revisiter cette question, y compris parce que c'est ça la question de la démocratie participative. Et de tout ce qui se joue derrière avec ce qu'on appelle les blogs, le web 2.0, toutes ces choses-là. C'est aussi ça qui se pose comme question. C'est une énorme question qui n'est pas simplement artistique ou spirituelle, mais qui est extrêmement politique et industrielle. Et c'est cela qu'il faut visiter. par rapport à ce contexte, la position politique que je défends à l'Institut de Recherche et d'Innovation, c'est que les établissements publics, la puissance publique en règle générale, doit aujourd'hui produire des appareils critiques qui sont antinomiques par rapport aux intérêts du marché. Et que dans tout ce développement technologique, politique, etc., démagogique, populiste ou organisé par le consumérisme et le marketing, évidemment, si nous ne nous mobilisons pas pour développer ces appareils critiques, il n'y aura plus aucune possibilité de critique, ni théorique, ni pratique. Quoi qu'il en soit, si je parlais tout à l'heure d'organologie générale, c'est parce que, ce vers quoi je voudrais venir maintenant, c'est que toute théorie, tout appareil critique, suppose toujours déjà un appareil technologique. Ça, évidemment, c'est très anti-métaphysique, c'est très anti-philosophique, c'est très anti-platonicien en particulier, mais c'est mon fond de commerce, ceux qui me connaissent le connaissent, ce fond de commerce, et c'est de là que je pars toujours. Il n'y a pas de ciel des idées. Il y a des consistances, il y a des idées, il y a de l'universel, mais pas dans un ciel au-delà, pas dans un deuxième monde ou un arrière-monde, pas dans une transcendance, dans une irréductible immanence, mais une immanence qui, travaillée par des artefacts, des organas, des supports de fantasmes, autrement dit, que sont les œuvres, les outils, les artifices en général, produit ce qu'on appelle du désir qui ne se réduit pas à de la pulsion. Et l'objet du désir est un objet de contemplation, donc de théorie. Être amoureux, c'est déjà théoriser, s'il est vrai que théoriser veut d'abord dire contempler et mettre sur un autre plan que le plan de la banalité, l'objet de mon désir. C'est déjà une forme de la théorisation. D'où vient le mot théâtre aussi, hein ? C'est le regard, tel qu'il admire véritablement un objet, en tant que cet objet est absolument singulier, étonnant et donne à penser. À penser, à éprouver, à s'exclamer, à applaudir, à tout ce que vous voulez. Et ça, ça conduit inéluctablement au théorique. Ça conduit inéluctablement au théorique lorsque on arrive à un stade de ce que j'appelle la grammatisation, qui va permettre l'élaboration d'un jugement critique, au sens où ce jugement critique théorique va poser comme exigence son universalisation et l'administration de sa preuve. Je vais y revenir tout à l'heure. Je disais, il y a un jugement théorique lorsque, tout à coup, le jugement pratique ne suffit plus à juger, ne permet plus. Lorsque le jugement pratique est interrompu et que, tout à coup, il faut trouver de nouveaux critères de jugement. Et c'est alors là que l'on théorise. Mais il arrive, et c'est le problème du jugement théorique, que celui-ci se substitue à tout jugement pratique. Et le problème, c'est alors que ce n'est plus le sensible qui se prononce à partir de ses armatures théoriques, ce dont je crois qu'en fait, il a toujours besoin. C'est le théorique pur qui se substitue comme une béquille au jugement en tant qu'il est d'abord pratique. Et qui donc, ce jugement théorique qui s'est substitué au jugement en tant qu'il est d'abord pratique, il finit par n'avoir plus rien à voir avec l'affect. Et ça n'est donc plus un jugement esthétique, ni donc artistique. Ça devient une machine qui, comme les théorèmes que critique Kant à propos de Wolff, et à travers qui il vise Leibniz, se mettent à fonctionner tout seul. Ça devient comme une ontologie débridée, sans limite, qui fonctionne toute seule, qui produit des énoncés magnifiques, mais qui ne désigne plus aucune œuvre, c'est-à-dire plus aucune pratique. Et nous sommes confrontés à ce temps. Nous sommes confrontés à une époque très paradoxale où d'un côté, on a une activité artistique que j'appellerais hyper-spéculative, et dans laquelle M. Pinault spécule beaucoup, et qui va s'effondrer. Et d'autre part, et qui est portée, cette activité spéculative, par tout un marketing, par tout un dispositif, où on paye des revues, où on paye des critiques, où on paye des gens, pour qu'ils produisent ce qu'on appelle du buzz, c'est-à-dire de la mystagogie mystificatoire. Et on peut faire monter comme ça les prix des œuvres extrêmement vite, etc. Mais il n'y a plus de critique théorique, c'est-à-dire que vous allez au palais de Tokyo, vous discutez avec un de ses critiques, et vous dites, mais monsieur, quelle est votre armature théorique? Ah, mais il n'y en a pas, c'est ma bonne foi. C'est ma bonne foi, elle suffit. C'est la foi qui est convoquée, je vous le signale en passant. C'est-à-dire la croyance, une forme de croyance. Et d'un autre côté, on a un appareil, appelons-le théorématique, qui se développe à Paris 1, à Paris 4, à Paris 8, dans toutes sortes de lieux, y compris chez moi, par exemple, et qui, on a l'impression qu'il ne prend plus sur les œuvres, il paraît... Et il y a comme une espèce de divorce qui conduit à, d'un côté, des jugements acritiques, sans aucune capacité, dans une époque comme celle où nous vivons, d'hypermodernité ou d'hyper-spéculativité, disons, de s'arrimer sur aucun théorème, et d'un autre côté, toute une critique théorique extrêmement puissante, mais très profondément désaffectée. Désaffectée. Je crois que nous devons poser la question d'une nouvelle critique, en ce sens-là. Une nouvelle critique théorique et pratique. Et nous devons revisiter Kant par rapport à cela. Je pense que le jugement critique théorique, c'est celui qui réarme théoriquement la faculté de juger. Mais que cette faculté de juger a une histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs proposé à Denis Guénoun que nous appelions, c'est pas encore décidé, mais ce colloque de l'année prochaine, Histoire de la faculté de juger, au pluriel. Ce qui est évidemment un tout petit peu contradictoire avec le kantisme qui se pose comme un espace de jugement transcendantal qui serait en principe hors histoire. Il y aurait une histoire de la faculté de juger théorique, et cette histoire de la faculté de juger théorique supposerait d'articuler cette faculté de juger théorique sur une faculté de juger artistique, c'est-à-dire pratique. Mais j'ajouterais aux énoncés de Jacqueline Eschenstein et de Fiedler que cette faculté suppose une organologie. Car il est évident, pardonnez-moi de dire cette énormité, cette banalité, que la fontaine de Duchamp à l'époque de Roger de Pile, on voit mal comment ça aurait pu fonctionner. Tout comme il est évident, on imagine mal comment un Caravage, aujourd'hui produit dans une galerie, pourrait prendre une valeur quelconque dans l'histoire de l'art. Bon. Pourquoi en va-t-il ainsi? C'est parce que ce devenir est lié à une organologie générale, transformation des organes, transformation des organats, transformation des organisations, qui fait que tout à coup, il y a un armement critique qui se produit dans un processus d'individuation. L'arsenal critique auquel on appelait André Rouillet lorsqu'il convoquait Marx, disant qu'il fallait faire non seulement une arme de la critique, ce qui est une chose que revendique évidemment Marx en tout premier, mais également une critique des armes, c'est-à-dire un méta-arsenal. Il faut faire des armes pour critiquer les armes. Les armes que sont les œuvres aussi, ou les théorèmes. Cet arsenal critique qui ne saurait être seulement théorique, qui passe par une praxis, mais aussi par une métisse, c'est-à-dire par une intelligence, qui est celle de l'art de la lutte, du polémos, et dont je crois qu'il est le savoir en propre des artistes eux-mêmes, car je crois que les artistes sont ceux qui ont cette métisse. Qu'est-ce que c'est que la métisse? C'est cette intelligence qui ne théorise pas forcément. Et donc les Grecs, Marcel d'Étienne l'a montré, posent qu'on la trouve chez la pieuvre, chez l'animal, etc. Non. Elle est quasi instinctive, cette intelligence. Donc elle peut complètement court-circuiter le théorique. Mais par contre, elle est inscrite dans une lutte, dans un polémos. Ce polémos, moi je l'appelle l'individuation. C'est la lutte, ce que j'ai appelé dans la misère symbolique, pour l'élargissement du sensible. Contre l'indifférenciation, contre toutes les forces de régression qui tendent à l'indifférenciation, ce qu'on appellerait, dans un langage scientifique, l'entropie. Cet arsenal critique, qui est à la fois pratique et théorique, dont les œuvres sont des cas. Un film comme Close-up 7, très clairement, tel que l'interprète Jean-Luc Homoli, un appareil critique. C'est un appareil polémique, c'est un appareil de lutte, de guerre. C'est une guerre que mène Karostami dans ce film. Bon. mais aussi un outil théorique, un livre de Denis Guénoux, ou de Diderot, ou de Kant, ou les modestes œuvres que j'essaye de produire, sont aussi ce sont des appareils critiques dans une guerre. Je crois que les appareils critiques ont une histoire. Et qu'on ne fabrique pas les appareils critiques au XXIe siècle comme au XXe, comme au XIXe, etc. Cette histoire des appareils critiques est très compliquée. Il y a des appareils critiques extrêmement modestes. Par exemple, un truc qu'avait étudié Michel Servière, c'est la signature de l'œuvre. Ça fait partie de l'appareil critique. Si je sais qu'une œuvre est signée d'un tel et que je peux mettre créer une série en disant bah ça c'est tout des Caravages, de toute façon c'est signé. C'est un appareil critique. Ça me permet de discriminer quelque chose. Il y a des appareils critiques aussi qui sont des topiques, par exemple, des choses très classiques, des rhétoriques, on aurait appelé ça, dans des tableaux, on sait qu'on va retrouver des choses qui viennent de l'emblématique, etc. Par exemple, les fameuses natures mortes avec des fatalités, hein, des crânes ou des choses comme ça. Bref, il y a tout un dispositif, une topique qui sert de critère, de mode d'accès, ce que j'appelle aussi des modes de compréhension. Et puis, il y a des appareils critiques qui se développent avec la spectroscopie que met en œuvre, par exemple, le laboratoire du Louvre qui étudie les œuvres en faisant des rayonnements X pour analyser les transformations, les retouches que Picasso, je ne sais pas qui, a dû faire sur une œuvre. Les appareils critiques se transforment. Ils se transforment et du côté pratique et du côté théorique. Par exemple, pour Renoir, Jean Renoir, je parle du cinéaste, eh bien, il y a des transformations critiques qui s'opèrent. Lisez Ma vie et mes films, qui passent par l'invention de la couleur, du travelling, etc., qui sont des appareils critiques pratiques. Voilà comment maintenant on va se mettre à faire des plans, ça, quelque chose qui change, parce que la technique change. Et puis, il y a évidemment des appareils critiques théoriques qui se produisent, et qui se produisent à travers cette histoire de l'organologie, qu'est par exemple le surgissement de l'écriture alphabétique, qui va permettre, c'est ce que dit, alors j'en reviens toujours à lui ou seul à propos de la géométrie, la critique géométrique, parce que la géométrie c'est d'abord une critique. Et cette critique géométrique, Husserl le dit, tout à fait à la fin de sa vie, 1937, sans l'écriture, il n'aurait pas pu exister. Il faut qu'il existe ce dispositif critique pour que la théorisation, c'est-à-dire l'idéalisation géométrique, puisse se développer. Il faut ce que j'appelle, moi, Bernard Stiegler, ces rétentions tertiaires qui permettent la constitution de la géométrie, qui permettent aussi la constitution de la philosophie, qui permettent l'histoire de l'art, etc., etc. Aujourd'hui,
pour le coup, ça fait à peu près une heure.
Oui, donc il faut que je m'arrête. Donc il faut que j'aille vers ma conclusion. Aujourd'hui se pose à nous la question de la théorisation et de la pratique de la grammatisation. Qu'est-ce que j'appelle la grammatisation? Eh bien, c'est un processus. Ce mot vient non pas de Derrida, comme les gens le croient souvent en l'entendant, parce qu'on sait que j'ai été élève de Derrida, mais de Sylvain Roux. La grammatisation, ça décrit un processus de technicisation de flux. Le flux de la parole, le flux du grain, par exemple des lentilles ou du riz égyptien, le flux des esclaves, égyptiens ou mésopotamiens ou grecs, la gestion des stocks, etc. La circulation des astres dans le, qu'on prend pour des dieux, les éphémérides des Mésopotamiens, etc. La grammatisation, c'est ce qui permet de discrétiser des continuités. Les flux qui apparaissent d'abord continus, et qui en fait, quand on les regarde avec des outils de discernement, c'est-à-dire de jugement, c'est-à-dire de critique, des outils qui viennent assister la faillibilité de la mémoire ou la limite de la précision oculaire, on va tout à coup discerner dans le flux des régularités qui reviennent, donc des discrétions. Je parle de discrétion au sens mathématique du terme. On va discrétiser le flux. Ça, c'est ce que fait l'Occident depuis des millénaires, mais c'est ce que font toutes les sociétés pratiquement depuis bien avant le néolithique même. Le roi Grand a montré ça dans geste et la parole, qu'il y a de la discrétisation de ce type. Il y en a, par exemple, chez les Australiens qui pratiquent les Shuringa, qu'il y en a très vraisemblablement dans tous les os entaillés qu'on trouve déjà 20 000 ans avant Jésus-Christ, dans les grottes préhistoriques, etc. Donc cette discrétisation, elle commence très très tôt. Mais, évidemment, il y a des époques où elle se met à reconfigurer totalement l'appareil critique qu'est la société. Car une société est un appareil critique. Une société, c'est un endroit, c'est un dispositif social où on fait des sélections. Et il y a des dispositifs qui sélectionnent. Par exemple, ici à la Sorbonne, on sélectionne, on attribue des thèses. Chez un éditeur, on sélectionne des manuscrits qu'on publie, d'autres qu'on publie pas. Dans des institutions culturelles, on donne des prix ou on ne les donne pas, etc., etc. Tout le problème étant de savoir qui juge, comment, est-ce que cette mystagogie est fondée ou pas en droit, etc. Moi, je pose qu'en réalité, elle est toujours configurée par une armature organologique dont il faut aujourd'hui faire la critique si nous voulons relancer une critique. Alors, ça se pose aujourd'hui dans un contexte très nouveau, dans la mesure où nous sommes en train de vivre en ce moment même une révolution de la grammatisation, extrêmement profonde, après celle qui s'est produite au XIXe siècle. Au XIXe siècle s'est produite une très grande révolution de la grammatisation. Auroux en avait étudié deux, qui étaient d'abord l'alphabétisation, qui est à l'origine et de la Bible et du corpus philosophique grec, donc l'origine de l'Occident. Puis il avait montré que la Renaissance avait relancé à travers l'imprimerie une nouvelle technicité de la grammatisation qui avait abouti finalement à tout ce que les jésuites ont développé comme outil de contrôle de l'appareil de l'activité spirituelle des peuples entiers, et ça a été l'appareil de la colonisation et finalement de la constitution, de la base des hypognémata qui sont les conditions de la constitution du capitalisme que Max Weber étudie, le capitalisme issu du protestantisme, sachant que les jésuites ont eux-mêmes été produits par la contre-réforme, c'est-à-dire par le protestantisme. Mais au XIXe siècle apparaissent de nouvelles formes de la grammatisation, d'où sortira le cinématographe. Ces formes de grammatisation sont des formes de grammatisation étudiées dès la fin du XVIIIe siècle par Adam Smith, à travers la machine-outil, à travers l'analyse des gestes des ouvriers, à travers tout ce qui va consister à contrôler l'activité des corps et d'abord des travailleurs. Mais cette activité des travailleurs, elle ne va pas se contenter de contrôler leur corps, elle va devenir aussi le contrôle de leur esprit, ça va donner la photographie, puis la chronophotographie, et finalement la cinématographie, et aujourd'hui toutes les technologies extrêmement développées de la visionique et de tant d'autres choses que Gilles Deleuze appelle les technologies de contrôle, et qu'en fait le premier à avoir pensé sous ce nom-là est William Burroughs, le fils de l'entreprise de Typewriter, qui est donc Burroughs, qui était une grande société de machines à écrire. Aujourd'hui, nous vivons un nouveau stade de la grammatisation, et ce stade de la grammatisation, c'est celui du web, de l'informatique, de ce qu'on appelle la numérisation, où se pose à nouveau fait la question du rapport entre critique et théorie, à savoir que la question n'est pas de dire il faut théoriser tout ça pour que ça se développe, on voit bien que ça se développe sans que personne ne le théorise, mais par contre il faut théoriser tout cela pour le critiquer, ce développement anarchique, et pour être capable de produire des bifurcations critiques au nom de cette théorie, une bifurcation artistique, politique, spirituelle, qui ne laisse pas dominer la logique mystificatrice de la mystagogie, de l'art contemporain, d'Internet, de cette technologie qui est aussi une mystagogie. La technique, dans les sociétés dites sauvages, c'est la magie. Et évidemment, la technique est la première des mystagogies. À l'époque des sociétés chamaniques, il n'y a pas de différence entre les œuvres, les techniques, les dieux, ce sont des processus mystagogiques. Voilà, je vais m'arrêter parce que je ne veux pas abuser de votre patience. J'en ai beaucoup d'autres choses à dire. J'ai dit un tiers de mon propos, mais peut-être que dans la discussion, j'aurai l'occasion de développer un peu tout cela. Merci de votre attention.
Merci Bernard. Alors avant de d'engager de mon côté quelques discussions ce soir, puisque les raisons ne manquent pas, et même dans celles qui manquent, même dans celles dont nous sommes privés pour l'instant, je vais demander directement à la salle s'il y a tout de suite dans l'immédiat des questions et des interrogations que vous voulez soumettre. Après cet exposé. Il y a comme toujours, je ne dis pas pour démentir ce que je viens de dire, je ne vais pas poser la première question, mais il y a comme toujours chez toi, Bernard, d'une part des propositions extrêmement apparentes, extrêmement directes, et qu'on attrape, tu vois, avec quelque chose d'immédiat, même si on ne te connaît pas, ou même si on te connaît, connaît ton œuvre partiellement, parce que je crois qu'il y a le cas de tout le monde, voilà comment on pourrait, avec tout ce que tu as produit ces derniers temps, tout entrer dans tout. Mais enfin, même quand on connaît peu, il y a des propositions comme ça qui sont extrêmement directes et qui provoquent à la pensée tout de suite, immédiatement. Et puis il y a autre chose qui est le réseau de ce que tu construis comme pensée extrêmement, je ne sais pas si on peut dire systématique, mais articulée à de multiples niveaux, extrêmement complexe, avec un jeu de renvoi extrêmement riche, une pensée terriblement ambitieuse, qui se propose rien moins que de refonder la société. Je te cite, hein, ce qui évidemment est à la fois énorme et en même temps incroyablement salutaire. Donc, on peut avoir envie d'aborder ton propos dans les deux dimensions, à la fois de t'interroger à travers quelque chose que tu as dit sur les grandes cohérences ou la grande architecture de l'entreprise que tu engages, que tu poursuis, ou d'autre part d'attraper un énoncé comme ça dans son évidence. Moi, j'aurais les deux, par exemple, à demander. J'aurais les deux sortes de choses à demander. Donc, de votre côté, ça peut être dans un cas comme dans l'autre, ou dans d'autres encore. À vous, amie, Madame Orofiam, Roselyne. Bernard, on a encore 1h15.
Bon, ben oui. Je vais essayer de répondre de manière synthétique. C'est pas facile, hein, ces questions. D'abord, les théories, pour moi, sont. Il faut d'abord, je pose que toute symbolisation humaine, théorie, question que vous venez de me poser, soit cette veste que j'ai mise ce matin, absolument tous mes comportements, autrement dit, tous les comportements humains, pour moi, sont des processus d'individuation, appartiennent à des processus d'individuation. Ça, c'est très très important. Alors, je dis bien tous les comportements. Ça ne veut pas dire que tout ce qui m'arrive relève de ce niveau-là pour autant. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des comportements. Dormir, ce n'est pas un comportement, par exemple. Rêver, c'est une forme de comportement très particulière. Bon, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du comportement humain. Il y a des choses qui peuvent être de l'ordre du... Bon. Alors, ça, c'est une question aussi extrêmement problématique, mais je dois préciser cela. Toute activité humaine, et toute activité humaine est un processus de symbolisation, c'est une individuation. Et une théorie, c'est un type spécifique d'individuation, qui est soumis à des règles très particulières. Une théorie, je crois, a toujours pour but de décrire les conditions de l'individuation elle-même, de près ou de loin. Quand je théorise quelque chose, par exemple, on a fait une petite théorie du football, enfin pas du football, c'était pas du football, mais une théorie de la place du football, en tout cas dans l'histoire franco-italienne à un moment donné, etc. Cette théorisation, c'était immédiatement une façon de parler de ce que c'est que le foot comme individuation, enfin dans le langage que j'emploie, qui n'est pas le mien, mais qui est celui de Gilbert Simondon. Bon. Et donc, la théorie, c'est une individuation de l'individuation, c'est une méta-individuation, si on peut dire. C'est une forme de connaissance de l'individuation. Avec ceci qui est très important que dit Simondon, et c'est ça qui me fascine dans cette pensée de Simondon, et ce qui fait que je me réfère maintenant sans cesse à cette pensée, même si je ne suis pas d'accord avec tout, loin de là. Chose que Simondon doit à la physique du XXe siècle, parce que Simondon c'est quand même un physicien, pas un physicien de métier, mais un théoricien de la physique, un penseur de la physique, c'est que théoriser l'individuation, c'est connaître, la théorie, une théorie c'est une connaissance, c'est pas simplement un savoir. C'est-à-dire que c'est le fait de savoir que je sais quelque chose, c'est ce que le know-how, comme disent les... non pas le know-how, le know-that, le fait que je sais que je sais. La théorie est toujours une connaissance, et cette connaissance... elle transforme l'individuation. C'est-à-dire que le fait de connaître l'individuation la transforme. Autrement dit, l'objet de la théorie n'est jamais un objet qui ne serait pas affecté par sa théorisation. Autrement dit, c'est une pratique, la théorie. On aurait dit à l'époque d'Althusser, de toute façon, la théorie est une pratique. Et la théorisation de l'individuation conduit inévitablement à la transformation de cette individuation. Moi, je dis, en fait, c'est une politique, du coup. Toute théorie, du près ou de loin, relève d'une forme de politique. Si on le disait dans un langage kantien, on dirait aussi, c'est une façon de transformer le principe subjectif de différenciation. C'est-à-dire de réinitialiser, dans un langage un peu d'ingénieur, le dispositif qui permet de juger, de mettre en œuvre des critères et de produire des différences. Alors, ça nous conduit vers ce que vous appeliez des valeurs. Parce que, dans un langage que d'ailleurs Jacqueline Lichtenstein emploie parfois, c'est produire de nouvelles valeurs. C'est aussi le langage de Nietzsche. Alors moi, pour mille raisons, aujourd'hui, je n'emploie pas trop de valeurs. D'abord parce que, si je l'employais, ce serait plutôt avec Marx qu'avec Nietzsche, que, comme l'a montré un jour George Collins, il faudrait passer par Valras, par toute une théorie économique de la valeur que je ne connais pas, que je connais vaguement, mais... Et puis par ailleurs, parce que ce mot de valeur a une connotation, a une valeur, si je puis dire, à notre époque, assez problématique. Donc j'évite de l'employer. Ça ne veut pas dire du tout que je le récuse, mais moi j'essaye de ne pas m'en servir. Par ailleurs, il est ambigu, et il reste quand même extrêmement, y compris chez Nietzsche, à mon avis... comme moi, je n'ai jamais très 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 bien compris ce qu'il appelle valeur, finalement. Hein. Bon. J'essaye, pour ce qui concerne la théorie, en tout cas, ce que je viens de dire, c'est moi qui viens de redire le mot, en disant la théorie produit de nouveaux dispositifs de subjectivation, de principes de différenciation, etc. Et j'ai dit, on pourrait appeler ça de nouvelles valeurs. Moi, j'appelle ça des consistances. Et comprenez-moi bien, alors là c'est technique cette fois-ci, c'est précis. Pourquoi est-ce qu'une consistance ne peut pas être une valeur? Par exemple, je dis que la justice, je fonctionne avec des trucs très simples, pour essayer aussi d'être lisible et audible. La justice, ça c'est quelque chose que tout le monde comprend. Enfin, tout le monde comprend. Qui affecte tout le monde, exactement. Parce que tout le monde est affecté par l'injustice. C'est la définition que donne Héraclite d'abord de la justice. La justice, c'est d'abord ce qui est vécu comme injustice. Et l'injustice, tout le monde en a une expérience, de près ou de loin. C'est une consistance. Ça n'existe pas. La justice n'existe pas. Mais ça consiste. Et on ne peut pas confondre la justice en tant que ce qui n'existe pas avec la justice telle qu'elle existe en tant qu'appareil judiciaire. Telle qu'elle essaye de faire respecter une loi qui est positive, qui est débattue dans les parlements, qui est débattue dans les hautes cours, qui est débattue dans des conseils constitutionnels. Et alors elle, qui est ce qu'on appelle le droit positif, et qui est l'activité des juristes. Les juristes ne s'intéressent pas à la justice. Les juristes s'intéressent aux procédures d'administration de la justice à travers le droit. Le sujet des juristes, c'est le droit. Ce n'est pas du tout la justice. Il se trouve qu'en Belgique, par exemple, les juristes font de la philosophie du droit. C'est-à-dire qu'ils étudient aussi la justice. Mais en France, malheureusement, on n'étudie pas la justice chez les juristes. On n'étudie que le droit, c'est-à-dire le droit positif. On ne fait pas de philosophie en droit en France. C'est très dommage. En Belgique, j'ai eu la chance d'être invité à l'Université libre de Bruxelles. C'est génial, parce que les juristes sont des philosophes. Ce sont des philosophes. Une formation de philosophes. Alors, là, on voit la différence entre ce que j'appelle les consistances et les valeurs. Le droit, ce sont des valeurs. Ces produits, ça existe. Les valeurs, elles existent, si vous voulez. Les consistances, elles n'existent pas. Les normes pratiques aussi existent. Par exemple, on dit, il y a des normes, alors Jacqueline Eschenstein aussi parle de ça. Il y a des normes, par exemple, dans le jugement artistique, il y a des normes. Bon, elles existent, elles fonctionnent. Si vous ne les connaissez pas, dit-elle, vous ne pouvez pas juger d'un tableau. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'histoire des normes de l'art, vous ne pouvez pas juger sérieusement d'un tableau. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'elle récuse le jugement kantien. Elle dit, mais non, ça suffit pas d'avoir le jugement réfléchissant. Il faut aussi avoir un jugement artistique. Alors ça renvoie à des valeurs, c'est-à-dire à des choses historiques. Pour moi, les valeurs sont historiques. Quand on veut les éterniser, c'est extrêmement dangereux. On va se mettre à éterniser la valeur des Gaulois, des Serbes ou des Ariens. Donc c'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot de valeur. En revanche, la théorie produit des consistances qu'elle métastabilise. Une consistance n'existe pas. Alors vous allez me dire, si elle n'existe pas, on ne peut rien en dire. Non. C'est précisément parce qu'elle n'existe pas qu'il faut en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, elle consistera de moins en moins. Elle n'existe pas, mais si elle ne consistait pas, la vie serait invivable. Par exemple, une vie sans justice, ça serait absolument invivable. Bien que la justice n'existe pas, elle n'existera jamais positivement. Donc il faut l'entretenir. Il faut entretenir l'idée de la justice, par exemple. Il faut entretenir l'idée du mathématique. Alors on va faire une thèse de mathématiques, on va revisiter Riemann, je ne sais pas quoi. On va aller revoir la théorie de la machine de Turing, ou je ne sais pas quoi. On va réactiver la consistance de ce qui n'existe pas, parce que tout ce qui est théorique n'existe pas. Rien de ce qui est théorique n'existe. Moi, je me suis intéressé, par exemple, à la théorie de la biologie moléculaire, qui est en fait théorisée par François Jacob comme néo-darwinisme. Et j'ai essayé de montrer qu'en 1978, trois chercheurs anglais, dont deux, Nathan Smith et Werner, je crois qu'ils s'appellent, ont cassé la théorie néo-darwinienne à partir du néo-darwinisme. C'est-à-dire qu'ils ont produit, avec la théorie darwinienne qui avait produit une espèce d'idéalité de ce que c'est que le vivant sexué, une idéalité, c'est-à-dire un modèle théorique qui n'existe pas, ils ont produit des enzymes de restriction qui font exploser la théorie, littéralement exploser. Je voulais parler de ça d'ailleurs dans la suite. Je voulais dire dans la suite de mon intervention que les artistes, les philosophes, les hommes politiques, les gens d'esprit, les religieux, les mystagogues en général, nous tous sommes des mystagogues, y compris les géomètres. Y compris les géomètres et les physiciens, parce que il n'y a pas de théorie sans axiomes, et les axiomes sont de l'ordre du vraisemblable et donc de la croyance, et pas du tout de l'ordre de la démonstration. Donc il y a de la mystagogie en toute activité de symbolisation. Nous, les mystagogues, notre rôle est de prendre soin de ces mystères qui font qu'il y a des choses qui consistent mais qui n'existent pas et qu'on ne peut donc pas prouver. Alors, c'est ça le travail de la théorie. En tant que la théorie est ce qui va lutter dans la mystagogie contre la mystification. À un moment donné, la mystagogie va dire, Platon va dire, ça suffit les histoires des présocratiques, vous me fatiguez, toi Héraclite, avec ta robe de grand prêtre, va te... fiche-nous la paix, et maintenant appliquons le principe de nos contradictions. C'est-à-dire, commençons à vraiment raisonner logiquement. En réalité, je crois que par là même, il évacue la technique, c'est-à-dire le fond mystagogique, il se permet du même coup de dire, moi je suis pas un mystagogue, et il fonde la métaphysique en disant, j'ai raison. J'ai fondé le livre, qui est la République, le livre de la société, et du coup, il va lutter contre l'individuation. En tout cas, c'est ce que je crois. Alors, dernier point sur la désaffection, et je m'arrêterai là-dessus, question du sens, je ne vais pas le développer, ce serait trop long, et puis il faut qu'on ait le temps de discuter, et d'autres questions. Mais, si vous voulez, pour moi, toutes ces questions, et c'est pourquoi je tenais absolument à parler de la désaffection et de la désaffectation que produit la théorie à notre époque, ce sont des questions du désir. Il se trouve que la théorie a été mise au service depuis à peu près la fin du XIXe siècle. Le premier à avoir pensé ça, mon ami, s'appelle Flaubert. Lorsqu'il parle du sieur Arnoux dans l'éducation sentimentale et de l'art industriel, et qu'il commence à voir venir à travers l'éducation sentimentale, à travers aussi Madame Bovary, à travers... Il sent venir ce que Nietzsche va développer et qui finalement va être ensuite repris par Proust, c'est-à-dire la verdurinisation du monde, la commensurabilité de toute chose, les effets de l'amour de Dieu, de ce que Weber va appeler le désenchantement, etc. C'est-à-dire que tout se vaut. Pourvu qu'on ait les moyens, on peut se payer ce qu'on veut. On peut se faire le Palazzo Grazzi, on peut s'acheter le Centre Pompidou, une soirée, etc. Pourquoi pas toute l'année, d'ailleurs, il y a plein de temps. Tout se vaut. Alors ça, moi je dis, c'est un problème d'économie libidinale. La théorie, c'est en réalité un appareil critique qui organise une certaine économie libidinale, et à un moment donné, cette théorie, elle est convoquée dans un appareil qui est un appareil à tout rendre commensurable. Ça s'appelle, chez Nietzsche, le nihilisme. Et c'est là que Nietzsche dit, voilà ce qui va réclamer une transvaluation de toutes les valeurs. Je ne veux pas employer ce mot-là, cette terminologie-là, pour mille raisons. Bon. Mais je dis, et je m'arrête là-dessus, ça c'est une question d'économie libidinale. Le capitalisme, c'est ce qui s'est transformé en une énorme machine à calculer la libido, là où la libido est incalculable, parce que les objets de la libido, ce sont les consistances, qui ne sont pas simplement théoriques. Un objet d'amour, quel qu'il soit, est une consistance. Vous, imaginez que je tombe amoureux, par exemple, de vous, par exemple, ou de quelqu'un dans cette salle. Ça, imaginez que ça arrive, ça peut arriver, hein. Moi, j'ai tendance à tomber amoureux assez vite, d'ailleurs. Bon, je suis fidèle à ma femme. Hein, bon. Mais, et bien, qu'est-ce qui va se passer? D'un seul coup, bling, vous allez vous mettre à briller. Vous allez être entouré d'un halo, d'une aura, comme on dirait avec Benjamin. Tout objet de désir se met à briller d'une aura. J'ai un peu commenté Zola, qui est un des grands penseurs de cette question, au Bonheur des Dames, parce que Zola montre comment tout à coup, on va capter ce truc dans la vitrine pour orienter la libido dans un dispositif qui deviendra ensuite le marketing, la marchandise, ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise, pour la rendre commensurable, cette libido, et non plus ce qui est produit par une incommensurabilité. Mais l'objet... Dès qu'un objet m'affecte, il n'est plus de l'ordre de l'existence. Parce que l'existence, depuis Newton et Kant, c'est ce qui est déterminable, c'est-à-dire calculable. L'objet du désir est incalculable. Aujourd'hui, nous vivons une désaffection parce qu'on est en train de détruire toute théorie, toute œuvre d'art, en en faisant un objet de la calculabilité. Et donc, on produit une désindividuation. Voilà ce que je crois, et je crois qu'il faut mener une lutte pour réarmer le désir, c'est-à-dire reproduire une nouvelle économie libidinale qui passe par la théorisation et la critique.
En général, nos séances s'étendent jusque vers 21h, donc vous avez encore un petit moment pour soumettre des questions. Alors, oui, il y en avait une là, c'était vous, monsieur, oui, et puis après, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur.
Ah oui, c'est une excellente question. Et merci de me la poser. J'ai l'intention de m'en expliquer.
C'est ça le livre, hein. C'est le livre co-signé avec Ars Industrialis qui s'appelle Réenchanter le monde et qui est sous-titré La valeur esprit contre le populisme industriel.
Précisément, c'est une citation en fait, la valeur esprit, c'est une citation de Paul Valéry, qui est principal inspirateur, je crois, de l'association Ars Industrialis. Enfin, c'est autour de lui que nous avons réussi, entre quelques philosophes, à former un consensus qui n'est jamais facile entre des philosophes, hein, sur un enjeu politique qui est celui d'Ars Industrialis, dont le sous-titre est « Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit ». Paul Valéry a écrit dans « Regard sur le monde actuel » quelques textes extrêmement importants, et sur l'esprit, et sur la technique, et sur l'industrie, et sur la valeur. Sur l'économie politique, autrement dit. Paul Valéry a écrit donc un texte en 1939. Il meurt juste après. C'est incroyable le nombre de textes qui ont été écrits par des gens qui meurent juste après dans le XXe siècle. Freud, l'homme Moïse et le monothéisme. Husserl, l'origine de la géométrie. Valéry avec ce texte. Et il y en a un certain nombre d'autres, Walter Benjamin. Enfin bon, c'est absolument stupéfiant. Ils avaient commencé très jeunes à faire le contexte, ils tenaient la route, quoi, ils tenaient longtemps, hein, ces auteurs.
Autour de cette année-là, tu veux dire
dans cette première moitié du XXe siècle. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Et donc, Valéry analyse ce qu'il appelle une baisse de la valeur esprit, et évidemment, il parle de valeur esprit, parce que précisément, il dit qu'elle est devenue, que l'esprit est devenu une valeur économique. Il dit maintenant l'esprit est quelque chose qui est sur un marché, et il nous faut apprendre à penser que l'esprit c'est pas simplement les œuvres qui sont au Louvre ou à la Bibliothèque nationale ou à la Sorbonne ou je ne sais où, mais ce sont les machines, ce sont les objets industriels, c'est tout ça, c'est de l'esprit encapsulé, incarné. Bon, il dit pas ça d'un point de vue marxiste. On sait bien que Valéry n'est pas du tout un marxiste. Mais en même temps, il dit ça pour partir d'une espèce de, je ne voudrais pas dire un matérialisme, je dirais un rationalisme valérien très spécial. Parce que Paul Valéry est quand même un penseur extraordinairement atypique. Et il développe cette idée d'une valeur esprit dont il dit qu'elle forme une économie politique nouvelle et qu'il faut la réformer. Enfin, il ne dit pas ça exactement comme ça, mais il s'inquiète énormément. Il s'adresse, c'est une conférence qu'il a faite à l'Institut, je crois, donc c'est ça la forme d'une conférence, vraiment, il dit, mes chers collègues, on est vraiment très mal barré, quoi. Vous et moi, dans quelques temps, on sera vraiment plus rien du tout. Et nous, qui pensions que ce que nous sommes était éternel, comme les immortels de l'Académie française croyaient être des immortels, c'est fini tout ça, quoi. Mettons-nous ça une bonne fois pour toutes dans la tête. C'est terminé. Mais mettons-nous une bonne fois pour toutes dans la tête que le monde est devenu industriel. Et donc commensurable. Parce que, qu'est-ce que veut dire industriel? Ça veut dire résistance des matériaux, application de standards. Commensurabilité, ça veut dire calculabilité généralisée. Et en même temps, Valéry, évidemment, pose que, en aucun cas, l'esprit n'est réductible à cette calculabilité. Voilà la raison pour laquelle, prenant au mot, c'est le mot que j'emploie, je prends au mot le MEDEF, puisque nous, dans Ars Industrialis, nous avons pris au mot le MEDEF, qui a fait, sur l'inspiration de M. Ernest-Antoine Sellière et surtout de Denis Kessler, qui était son mentor, une université qui s'appelait Réenchanter le Monde, enfin le Réenchantement du Monde, et en disant qu'il fallait que le capitalisme devienne une machine à produire de la connaissance, du savoir, etc., nous avons dit, on vous prend au mot, mais à ce moment-là, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que la valeur de l'esprit? Voilà, c'est d'où ce titre, mais c'est une citation, mais c'est une excellente question, et c'est un vrai problème que vous posez. Alors, dans un prochain livre, qui est le quatrième tome de mes créances discrédites, que j'ai pas encore eu le temps d'écrire, je ferai une critique de Valéry, parce que Valéry est assez ambigu sur cette question de la valeur. Donc je vous répondrai un peu plus tard en détail.
Nicolas Ferrier.
Oui, c'est un petit point de confusion dans ma tête où voilà, vous avez très vite, ou alors j'ai mal entendu quand vous avez défini la modernité. Moi j'ai entendu comme le temps où c'est l'œuvre qui se référence à elle-même. Alors, si c'est autonomie de l'œuvre, je ne sais pas, comme le temps de l'œuvre. Et après, vous avez parlé de l'époque présente comme le temps de la spéculation pure, c'est-à-dire à un moment donné où une théorie, en fait, quitte, ou s'abstrait complètement du rapport à la pratique. Et donc, moi, ma conclusion, ma question, elle est sur ce rapport entre quelque chose qui me paraît extrêmement important par rapport à la consistance, n'existe pas, ce qui n'existe pas, et en même temps son rapport
ça folle dans le vide. Ça.
Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bon, j'aurais développé aussi ces questions, en fait, si j'avais pu aller un peu plus loin. Sur la modernité, je vais aller très rapidement, ce serait sommaire, parce que c'est tellement complexe, cette question de la modernité, que je préfère être regardé pâquerette, sauf à prendre le temps de développer. Ce que j'aurais fait si j'avais eu beaucoup plus de temps. Moi, je dirais que modernité en philosophie, modernité en poésie, modernité en peinture, ce ne sont pas les mêmes époques. Donc, et déjà, il faut commencer par éviter. C'est pour ça que le colloque qu'on va faire avec Pierre Damiolic s'appelle modernité au pluriel. Il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait la modernité d'un point de vue historique. Par contre, il y a un projet de la modernité qui se reconfigure, qui se réindividue à travers ces différents épisodes de démodernité, oui, ça je le crois. Il n'y a pas de doute que dès le XIVe siècle, il y a déjà une espèce d'émergence de modernité qui va commencer à se configurer, bon, qui va se concrétiser dans l'humanisme, bon, très très compliqué ce sujet. Mais au sens où j'en parlais tout à l'heure, c'était un peu ce que dit Georges Bataille à propos de Manet comme premier peintre moderne. C'est-à-dire, ça n'est plus rhétorique, ça n'est plus de la croix, en aucune façon. Alors, c'est très proche de Baudelaire, hein, la banalité de l'asperge, il parle, vous vous souvenez de ça, il parle de la banalité de l'asperge de Manet, etc. Ça n'est plus, la consistance de la peinture ne renvoie plus qu'à son autoconsistance du pictural. Elle ne passe plus par une consistance de l'histoire française, de la christologie, ou de je sais pas quoi. Bon. C'est vraiment minimal, hein, je dirais pas que c'est une définition, c'est ce que j'entends par là. C'est pas vraiment une définition. Si je voulais définir ou infinir, je dirais plutôt, je rajouterais beaucoup d'autres choses, mais ça, on en reparlera peut-être dans un autre univers. Après, sur la question de la spéculation, alors ça, je suis ravi que vous posiez cette question parce que c'était vraiment une des choses sur lesquelles je voulais venir. Le caractère réfléchissant du jugement, je crois qu'on peut dire que c'est un caractère spéculatif du jugement. Et que, moi je pense que chez Hegel, la proposition spéculative est une façon de reprendre cette réflexivité, par exemple, au niveau de ce que Hegel appelle la substance, qui est très proche de ce que j'appelle l'individuation. La substance en tant que sujet. Cette spéculativité-là, elle peut se développer de maintes manières. D'abord, il y a la spéculativité du désir même. Le désir spécule et d'emblée il s'emballe, c'est-à-dire qu'il fantasme. La spéculation est fantasmatique. Et on pourrait dire que la faculté de la spéculation, c'est évidemment le nous, en tant que ce qu'on traduit parfois par l'intellect ou l'esprit, mais dans le nous, c'est la fantasia, c'est-à-dire que c'est la capacité de l'imagination. Spéculer, pour pouvoir spéculer, il faut commencer par être capable d'imaginer. Une des énormes figures de la spéculation à cet égard, c'est Léonard de Vinci, qui d'ailleurs tient des discours là-dessus. Évidemment, le théorique, en règle générale, spécule. Il n'y a pas de théorique possible sans spéculation. Les consistances sont des spéculations. Inévitablement. Dès lors que je parle de choses qui n'existent pas et que je pose que bien qu'elles n'existent pas, elles consistent, c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer, je spécule. Évidemment, le jugement réfléchissant est une spéculation. Si je dis, cette œuvre m'apparaît. Pour autant que j'admets le raisonnement de Kant, bien entendu. Aujourd'hui, on peut discuter, mais moi, je crois que dans l'ensemble, de toute façon, il est quand même un contour. Enfin, on le résoudra pas, on le réduira pas, ce chemin kantien. Ça, je n'y crois pas. Là, j'ai un petit point de désaccord avec Jacqueline Eschenstein. Bon. On peut le mettre en crise, le refaire travailler, et ça, mais je pense pas qu'on puisse. Moi, je vis ça. Chaque fois que j'ai affaire. Un jugement que je dirais pas simplement esthétique d'ailleurs, mais spéculatif. Bon. Je vis cette extraordinaire puissance de la théorie kantienne du jugement réfléchissant, cette réflexivité. Et c'est une spéculation. Pourquoi est-ce que c'est une spéculation? Parce que c'est une mystagogie, précisément. Puisque ça porte sur des choses qui n'existent pas, ça ne peut être que mystagogique. Et c'est évidemment là que tout à coup, le capital s'empare de cette mystagogie et vient la parasiter, la phagocyter de l'intérieur. Et puis, moi aussi, je suis de la mystagogie. Parce que c'est ce que dit Marx à propos du capital. Le capital n'est que de la mystagogie. Et donc, je vais surmystagogiser, et donc il dit aux artistes, ben, venez vous faire mystagogiser par moi, si je finis. Et il y en a beaucoup qui marchent, sans aucune hésitation. Ici, je voudrais revenir, moi, vers la question du travail. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai terminé la télécratie contre la démocratie, par un dernier chapitre qui parle du travail. De ce qu'on appelle parfois, dans le langage de M. Sarkozy et de Mme Royal, raison pour laquelle je n'en peux pas, la valeur travail, et qui n'est pas une valeur travail pour moi, mais qui est le travail, en tant que le travail, ça œuvre. Tout travail œuvre, c'est-à-dire individu. Et de ce point de vue-là, spécule contre le capital. C'est-à-dire, parce que le capital, lui, s'en fout totalement de vrai. Ce qu'il veut, c'est calculer et amortir ses investissements. C'est-à-dire pouvoir confirmer ses calculs de risque. Parce que le capitalisme, c'est une modalité du calcul qui passe par le risque. C'est le calcul des risques. Et le capitalisme veut que le travail coïncide avec les intérêts du risque calculé qu'il a pris. Et donc, il produit ce que j'appelle la transformation du travail en emploi. Parce qu'un travailleur est très mauvais pour le capital. Un travailleur affirme une singularité. Un travailleur qui affirme sa singularité, la théorie, l'art, l'individuation, le capitalisme, etc., et donc la politique. Donc c'est une immense question. Mais je dirais que celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le travail. Parce qu'en fait, le philosophe travaille. L'entrepreneur travaille. Et en ce moment, là j'ai dans mon sac un livre qui s'appelle « L'avenir du capitalisme », qui a été écrit par Jean-Louis... je vais retrouver son nom. Gréot. Économiste, financier, employé du MEDEF pendant des années, cadre du MEDEF, et qui a quitté le MEDEF, qui a publié un livre en disant « Il faut que les entrepreneurs puissent à nouveau entreprendre. Ils ne peuvent plus entreprendre, parce que le capitalisme ne veut plus d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneur, c'est un travailleur. Ça reste, c'est un capitaliste, mais c'est un capitaliste qui travaille. Il accorde plus de valeur à son entreprise qu'à son capital. Il tient plus à son projet, comme disait Weber, qu'à sa monnaie. Et le capitalisme financier est arrivé là-dessus, ça fait très longtemps qu'il existe, mais depuis quelques années, il fait la loi, et Gréot dit qu'il est en train de détruire l'entreprise, c'est-à-dire le capitalisme. C'est aussi l'idée de l'ars industrialis.
Encore une question très très brève, pour une réponse brève. Ou bien alors, oui, pardon, monsieur,
vous en prie. Vous avez parlé dans la question des jugements pratiques, qu'on peut avoir des jugements valides. Et est-ce que le jugement valide, c'est ce que Bourdieu, par exemple, dit, c'est le jugement des pairs, c'est-à-dire par rapport à l'artiste de ses pairs, ou qu'est-ce que vous entendez par jugement valide?
Énorme question. Énorme question qui nécessiterait une théorisation. que je saurais pas traiter là. En tout cas, moi ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il peut y avoir des jugements valides sans théorie, sans fondement théorique qui fonctionnent. Je dirais même que la plupart des jugements sont sans fondement théorique et fonctionnent. Nous jugeons absolument en permanence, sans même nous en apercevoir, de toutes sortes de choses. J'avais pris un exemple dans la fin de cette intervention que j'ai pas eu le temps de développer, qui est celui de mon beau-père qui est pêcheur à la truite. Bon, il pêche à la mouche. Je peux vous dire que mon beau-père, il en connaît un rayon sur les pêcheurs, et que vous pouvez, il est intarissable. Mais si maintenant je lui demande de me faire une théorie de la pêche à la truite, totalement impossible. Bon. On sent tout de suite la validité d'un jugement pratique de ce type. Bon, mais on peut aussi, quand on n'y connaît rien, se faire évidemment avoir, y compris dans le domaine de l'art. Bon. Voilà. Mais c'est une énorme question, ça, et chaque fois, je pense qu'il n'y a que des réponses, comme aurait dit Husserl, des réponses régionales, c'est-à-dire à chaque fois liées à des empiricités. On ne peut pas avoir une réponse, mais c'est une énorme question.
Alors, permettez-moi de vous dire deux choses. Premièrement, le dispositif que nous avons imaginé, qui s'appelle le groupe de recherche théorique, partait aussi de l'idée que nous ne voulions pas seulement faire une série de conférences, hein. Donc, nous cherchons des procédures qui sont d'ailleurs en train de s'enrichir sous l'impulsion de Joanne, de prendre des formes qui se développent, pour ne pas faire seulement, même si c'est déjà énorme, cette conversation toujours trop brève après une conférence toujours trop courte. Donc, nous avons des séances de travail qui commencent toutes par le fait de revenir sur la conférence précédente, soit lorsque le conférencier est des nôtres, s'il en a le temps, s'il en a la possibilité, s'il est disponible à Paris à ce moment-là, c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui viennent de loin, vous verrez sur notre programme si vous ne le connaissez pas, et soit entre nous. Alors, si cette procédure de travail continuée et qui laisse aussi le temps de reformuler les questions et de les faire travailler les unes par rapport aux autres, vous intéresse, vous êtes les bienvenus, et adressez-vous à Joanne pour qu'il vous envoie nos informations. Mais il y a d'autres procédures, il y a des procédures sur Internet, il y a un site qui est en cours de création, un blog avec des procédures de documentation, d'archivation, de discussion, d'échange entre nous, etc. La deuxième chose que je voulais vous dire, si vous voulez bien, c'est qu'il y a tout de même un fil entre toutes nos séances, et y compris entre nos conférences, puisqu'il a eu la gentillesse, comme tous nos autres conférenciers qui étaient à Paris, d'être présent à d'autres séances que celle de ce soir. Ce fil, c'est la question du théorique, comme tel, sur que tu as tellement abordé ce soir, et sur lequel on aurait tellement de choses à demander à nouveau. Nous demandons, qu'est-ce que c'est que la théorie? À quoi ça sert aujourd'hui? De ce point de vue-là, on a bien vu les repères avec toi entre ça sert à rien, la bonne foi suffit, et puis ça sert à critiquer l'état des choses tel qu'il est, hein, ou la situation dans laquelle nous voilà rendus. Bon. Donc, à quoi ça sert et comment ça rend ça possible? Nous avons plus ou moins cette impression qu'il faut remettre la question de la théorie, de la production théorique, de l'invention théorique, au centre de nos réflexions, en tout cas, lui redonner une consistance pour nous sortir un peu des impasses dans lesquelles nous sommes. Alors, cette question va donc continuer d'être abordée dans nos séances de travail. Nous prenons certains textes, nous essayons de discuter, savoir par exemple en quoi consiste exactement le geste théorique. Quelle est l'invention théorique? Que fait la personne qui théorise au moment où elle théorise? Et nous essayons de solliciter des textes très différents les uns des autres, comme tu le fais sans cesse, dans des domaines de l'activité humaine les plus différents possibles. Et pas seulement dans les théories dont nous sommes familiers. Et puis, la question est réagitée, bien sûr, par nos prochains conférenciers, dont je vous dis rapidement les noms. Thomas Domange, Jean-Baptiste Brenet, Michel Deguy, Sarah Kay, Judith Butler. Donc, vous voyez, je pense à votre seule réaction, ce sont certains noms assez visibles et importants dans les débats d'aujourd'hui, d'autres noms qui sont ceux de jeunes chercheurs qui engagent un travail que nous trouvons très vif. Et sur le même plan de mise en discussion, nous discutons avec les uns et les autres et nous essayons d'engager ce processus. Donc je me permets de dire, je crois en votre nom à tous, un grand merci à Bernard d'avoir apporté cette contribution si consistante.
Merci.
À notre processus.
Merci à toi. Merci à toi.